Bonsoir à tous, c'est toujours un plaisir d'accueillir Monsieur Pastoureau tous les deux ou trois ans à l'espace Mendès France, parce que c'est un deal entre nous. Donc je pense que vous êtes, certains sont déjà venus, d'autres sont nouveaux, donc est-ce que je dois répéter la même chose? Vous présenter de la même façon. Donc Michel Pastoureau, vous êtes historien du Moyen-Âge, paléographe, vous avez travaillé sur l'héraldique et sur votre thèse en 72. Et vous avez soutenu une thèse sur les bestiaires héraldiques, ce qui à l'époque, d'après ce que j'ai lu, n'était pas très à la mode. Et d'ailleurs, les sujets que vous abordez sont pas toujours à la mode, mais deviennent à la mode, étant donné qu'on voit aussi que certains couturiers font appel à vous, etc., pour savoir comment on met les rayures ou comment on utilise les couleurs. Et on va aussi être un peu iconoclaste ce soir, parce que M. Pastoureau, qui vient d'avoir un prix pour son dernier livre, qui s'appelle « Les couleurs de nos souvenirs », que je vous invite à lire. On a parlé de quelques anecdotes en marchant tout à l'heure. En particulier, on voudrait la définition du verre administratif. Est-ce que c'est un verre administratif ici? Je ne pense pas, non. Donc, on ne va pas parler des couleurs ce soir. Parce que j'avais demandé à Michel Pastoureau de venir nous parler des animaux, chose que vous avez déjà faite, puisque vous êtes intervenu sur l'ours lors de nos séminaires, nos conférences. Mais on a organisé avec l'Université de Poitiers, en particulier avec l'Action culturelle de l'Université de Poitiers, un parcours autour de l'animal, à chacun son animal. Donc l'année dernière, on a organisé une journée d'études qui va sortir d'ailleurs sous forme d'actes aux éditions Pures en février. Et donc j'avais demandé à M. Pastoureau de nous parler des animaux. Et le thème de votre conférence ce soir porte sur l'historien face à l'animal, les procès d'animaux, qui est un thème aussi, d'après ce que vous dites, qui n'est pas été très étudié. Et en voyant la thématique, je me suis dit, y a-t-il un lien si proche entre l'animal et l'homme au Moyen-Âge pour qu'on attende des procès aux animaux? C'est ce que vous allez nous dire, entre autres. Merci, monsieur, en tout cas, d'être chez nous.
Merci. Donc, bonsoir à tous. Oui, ce soir, je mets ma casquette d'historien des animaux. Ça n'est pas fréquent que les historiens parlent des animaux, et jusqu'à des dates récentes, c'était même extrêmement rare. L'animal n'était pas un objet d'histoire sérieux. Quand j'étais étudiant et que j'ai voulu consacrer ma thèse au bestiaire médiéval, au bestiaire héraldique médiéval, c'était doublement frivole. L'animal n'était pas objet d'histoire et l'héraldique était une discipline tout à fait réprouvée. Donc j'ai dû me battre pour imposer un tel sujet. L'animal, jusqu'à des dates récentes, était abandonné à ce qu'on appelle la petite histoire et au recueil d'anecdotes et de curiosités. Et c'était souvent l'occasion, d'ailleurs, de se moquer des croyances ou des pratiques de nos ancêtres. Et les procès faits aux animaux en sont un parfait exemple. Ça montre qu'on n'a rien compris de ce qu'est l'histoire. Et quand on juge le passé à l'aune des systèmes de valeurs du présent, évidemment, on n'est pas historien. Heureusement, donc, les choses ont bien changé depuis une génération à peu près, grâce à des contacts plus nombreux entre les historiens et des spécialistes d'autres disciplines au sein des sciences humaines, des ethnologues, des linguistes, des anthropologues, mais aussi des contacts plus étroits avec des naturalistes, avec des zoologues. Et les colloques pluridisciplinaires autour de l'animal ne sont pas si rares aujourd'hui. Il m'arrive souvent d'y participer. Et contrairement au colloque pluridisciplinaire consacré à la couleur, auquel je participe assez souvent et qui réunissent des chimistes, des physiciens, des linguistes, des sociologues, des historiens, etc., avec la couleur, au bout de deux minutes, on a compris que, même si on est content de se retrouver pour parler de la couleur, on a compris qu'on ne parlait pas de la même chose selon que l'on venait des sciences humaines ou des sciences dures. L'animal, non, échanger est plus facile. Il y a des passerelles, il y a des collaborations, il y a des thèses, même aujourd'hui, en milieu universitaire à cheval, entre les sciences naturelles et les sciences historiques ou philologiques. Et il faut, bien sûr, s'en réjouir. Je situe ces transformations dans les années 80, donc je les ai vécues en tant que jeune chercheur, et j'ai l'impression que c'est quelque chose, heureusement, qui va continuer. Ça tient à l'animal lui-même qui touche absolument à tous les problèmes et à tous les sujets concernant l'homme vivant en société. L'animal, c'est l'élevage, c'est l'histoire économique, c'est l'alimentation, c'est tous les produits que l'on peut en retirer. Mais c'est aussi, pour le Moyen-Âge notamment, les animaux qui travaillent. Il y en a énormément. Et puis, c'est tout ce qui relève du monde, des croyances, du folklore, de la mythologie, de la religion. Et enfin, celui des savoirs et l'histoire de la zoologie, qui est une de mes spécialités. Tout ça est absolument passionnant et prend place dans des catégories de documents extrêmement nombreux. L'animal est présent partout. Textes, images, traditions orales, lexiques, faits de langue. On ne peut pas ne pas rencontrer l'animal quand on est chercheur en sciences humaines. Et peut-être même quand on est médiéviste, historien du Moyen-Âge, on le rencontre encore plus que pour d'autres disciplines, parce que le Moyen-Âge est extrêmement bavard sur l'animal, sans doute plus bavard que l'Antiquité et plus bavard que l'époque moderne. Quand on est historien du Moyen-Âge, on rencontre l'animal à chaque coin de documents, pourrait-on dire. Pour différentes raisons, mais la principale est peut-être théologique. Les clercs médiévaux sont obsédés par l'idée qu'il ne faut pas confondre l'homme et l'animal. Et par là même, on est conduit à en parler constamment pour faire des comparaisons et inviter à éviter cette confusion. On peut distinguer un double courant chez les auteurs du Moyen-Âge dans leur attitude envers l'animal. Il y a un courant dominant, donc celui-là, ne pas confondre l'homme et l'animal. Et puis il y a un courant plus discret, mais qui est quand même bien présent et qui mettrait en scène une communauté des êtres vivants. L'homme et l'animal faisant partie de cette communauté, c'est un courant bien sûr aristotélicien, mais c'est aussi un courant chrétien, un courant, on pourrait dire, paulinien. À plusieurs reprises dans les épîtres, Paul semble aller dans ce sens, notamment dans l'épître aux Romains, lorsqu'il dit, c'est à peu près au milieu, que le Christ est venu sur terre pour libérer toutes les créatures, et ce « toutes les créatures » a entraîné des gloses infinies au Moyen-Âge. Est-ce que ça veut dire que les animaux ressuscitent après la mort? Est-ce qu'ils vont en enfer, au paradis? Est-ce que c'est le même enfer et paradis que pour les humains, ou spécifique pour les animaux, ou pour chaque espèce animale? Ce sont des questions théologiques que l'on se pose à l'Université de Paris au XIIIe siècle, et les réponses sont assez variées. Et cette idée que Jésus est venu sur Terre aussi pour les animaux est confirmé par un argument qui est souvent cité. Il est né dans une étable, c'est donc qu'il est venu aussi libérer les animaux. D'où aussi la présence, l'omniprésence des animaux dans les églises, à l'intérieur et à l'extérieur. Il y a des animaux absolument partout, partout, partout. Donc quand on est historien du Moyen-Âge, évidemment, on ne peut pas ne pas rencontrer l'animal, mais on rencontre aussi un grand danger. Le danger principal pour l'historien, l'anachronisme. Et évidemment, il ne faut pas projeter dans le passé, et surtout dans le passé lointain, nos savoirs d'aujourd'hui en matière de zoologie, nos classifications d'aujourd'hui, nos catégories, nos sensibilités. Ce n'étaient pas ceux et celles des hommes et des femmes du Moyen-Âge, ni de l'époque moderne, et ce ne seront pas ceux et celles des hommes et des femmes qui vont nous suivre. Dans 2, 3, 4 siècles, nos savoirs zoologiques feront sourire nos successeurs. Il faut rester lucide. Nos connaissances d'aujourd'hui, ce ne sont pas des vérités dans aucun domaine. Ce sont des étapes dans l'histoire des connaissances. Et pour ce qui concerne le monde animal, bien sûr, ça va continuer d'évoluer, de se compléter, de se transformer. Donc quand on travaille sur le passé, il faut éviter de projeter nos savoirs d'aujourd'hui, au moins sans précaution aucune. Il faut être lucide et savoir qu'on risque l'anachronisme. Je vous donne quelques exemples. La notion de mammifère est absolument inconnue au Moyen-Âge. C'est une notion qui émerge lentement à la fin du XVIIe et surtout au XVIIIe siècle. la notion d'insecte également, notion qui n'existe pas. Elle émerge un peu plus tôt, dans le courant du XVIe siècle, et devient une vraie catégorie au XVIIe siècle. Au Moyen-Âge, quand on classe les animaux, il y a cinq catégories. Il y a les quadrupèdes, les oiseaux, les poissons et tous les animaux qui nagent, les serpents et les dragons, qu'on met dans la même catégorie. D'ailleurs, le dragon est souvent présenté comme le roi des serpents. Et puis, il y a un fourre-tout, tout le reste, qu'on appelle les vers, vermes en latin, où on range les larves, les insectes, les rongeurs, les coquillages, la souris, la crevette et la mouche sont rangés dans la même catégorie. Au Moyen-Âge et dans l'Antiquité tardive, c'est la même chose. En revanche, les abeilles, par exemple, qui sont un objet d'admiration extraordinaire au Moyen-Âge, c'est toujours une catégorie à part. C'est même pas un animal, l'abeille. Deux animaux comme ça qui ont un statut très particulier, à la limite du monde animal, le cheval d'un côté et l'abeille de l'autre. Mais il n'y a pas que les classifications, il y a d'autres catégories qui nous sont familières, qui ne fonctionnent pas tout à fait dans les documents médiévaux comme aujourd'hui. Par exemple, sauvage domestique. Ça ne se définit pas comme nous, nous définissons ces catégories. Aujourd'hui, les zoologues définissent comme animal domestique ceux dont l'homme maîtrise la reproduction. Mais c'est une définition toute récente. Au Moyen-Âge, est domestique tout animal qui vit dans la domus ou autour de la domus, dans la maison ou autour de la maison. Par là même, le corbeau, le renard, la souris, le merle, la pie, la belette, la taupe, ce sont des animaux domestiques, domestica. Donc ça fait quand même des écarts assez grands avec nos catégories d'aujourd'hui. Indigène exotique, là aussi, il faut apporter un certain nombre de bémols. Ça n'est pas parce qu'un animal n'est pas présent à l'état naturel sur le terroir européen qu'il est exotique. Il peut très bien venir de loin et ne pas être exotique. Le lion en est le plus parfait exemple. Le lion fait partie de la vie quotidienne au Moyen-Âge. On voit des lions partout, non pas tant des lions vivants, encore qu'on peut en voir dans des parcs aux animaux, dans des ménageries, sur les places de foire et de marché, il y a des montreurs de fauves. Mais surtout, on en voit peints et sculptés dans l'église. Il y en a un nombre considérable, peints, sculptés, mis en scène, racontés, expliqués. Le lion est presque quotidien, y compris pour les hommes et les femmes de la société paysanne. Ce serait une erreur d'en faire un animal exotique très lointain. En revanche, l'hippopotame, qu'on connaît très mal, c'est vraiment un animal exotique. L'éléphant, on le connaît beaucoup mieux et il est mis en scène très, très fréquemment. On voit même des animaux, des éléphants en chair et en os. Il y a celui de Charlemagne qui est resté célèbre. Ce n'est pas une légende, il a vraiment existé. Abou Labbas, c'était son nom. Il s'est noyé dans le Rhin, probablement. Il y a surtout celui que Saint-Louis a reçu après sa libération et son retour de Terre Sainte. En 1254, il est revenu à Paris et un éléphant qui a pris lui une autre voie est arrivé un peu plus tard. Saint-Louis avait très peur des animaux, il n'aimait pas du tout les animaux et il s'est empressé d'offrir cet animal magnifique au roi d'Angleterre et on a la chance d'avoir des documents concernant tout le voyage de cet éléphant de Paris à Londres. À Beauvais, l'évêque est venu le bénir et lui a offert une immense cape qu'on a conservée comme une relique pendant assez longtemps. Son arrivée à Londres a été saluée par la population venue en abondance. Et puis on lui a construit à côté de la Tour de Londres une maison. Mathieu Paris, le chroniqueur et enlumineur, est venu le dessiner. Et cet éléphant se baignait dans la Tamise tous les jours. Il avait un compagnon, d'ailleurs, un ours blanc que le roi de Norvège avait offert au roi d'Angleterre, Henri III. Cet ours blanc avait reçu le surnom de Piscator parce qu'il pêchait magnifiquement de beaux poissons. Bref, certains animaux individus comme ça sont assez bien documentés à partir du XIIIe siècle. L'historien en rencontre de temps en temps. Anachronisme aussi de projeter sur le bestiaire médiéval les catégories de réel et d'imaginaire. Ça ne fonctionne pas comme aujourd'hui. Le dragon, la licorne, le griffon, le phénix et quelques autres sont des animaux bien réels pour la zoologie médiévale et vont le rester pour certains jusqu'au XVIIe siècle dans les manuels de zoologie. Ils ont encore un chapitre. Certains auteurs commencent à douter et posent des questions, mais il faut attendre Buffon, au fond, pour qu'on ait le XVIIIe siècle, pour qu'on ait une autre faune que celle des traditions antiques et médiévales. Donc, éviter ce type d'anachronisme quand on est historien du Moyen-Âge travaillant sur les animaux, et éviter aussi de prendre le Moyen-Âge comme un tout, hein. Le Moyen-Âge dure 1000 ans, donc évidemment, les choses changent. Les rapports entre l'homme et l'animal évoluent. Prends quelques exemples. Le chat, par exemple. Le chat, c'est un animal dont le Moyen-Âge chrétien se méfie pendant longtemps. Il n'a pas le droit d'entrer dans les maisons. Il vit la nuit. Il est souvent à pelage noir ou tigré. Créature du diable. Et d'ailleurs, à l'époque des sabbats, il joue un rôle important dans les histoires de sabbats. Mais le regard porté sur le chat change à la fin du Moyen-Âge, notamment à cause de la grande peste du milieu du XIVe siècle, 1346, 1350, 51. Un tiers de la population européenne a disparu à cause de ces épidémies qu'on appelle peste noire. Et on a plus ou moins compris, ce qui était très moderne finalement, on a plus ou moins compris que les rats avaient certainement joué un rôle dans l'évolution et la transmission de l'épidémie. Et on a réalisé en quelques décennies que les chats étaient plus efficaces pour chasser les rats que les belettes qu'on utilisait jusqu'à présent, hein. L'Antiquité romaine et tout le Haut Moyen-Âge, et encore le Moyen-Âge central, pour chasser les rats et les souris, utilisent des belettes, animal plus ou moins familier, qui vit dans la maison ou autour de la maison, mais qui n'est pas très efficace. Le chat est plus efficace, et par là même, ça a revalorisé l'attitude envers le chat. Et à la fin du Moyen-Âge, le chat commence à devenir le compagnon que nous connaissons, hein. Au XVIe siècle, on a de très nombreux témoignages sur ce changement de statut. Montaigne, par exemple, quand il nous parle de ses chattes, c'est déjà tout à fait comme nous, si je puis dire. Donc ça, c'est un changement qui se situe au XIVe et au XVe siècle. Le chien, c'est un peu la même chose. Le chien, c'est un animal impur, c'est un animal plein de souillures qu'on n'aime pas beaucoup pendant le Haut Moyen-Âge. En tout cas, on distingue différentes catégories de chiens. Il y a des chiens de chasse qui peuvent être objets d'affection, voire d'admiration, mais l'espèce chien en général, non. C'est un animal très sale, le chien. Et puis, progressivement, il se revalorise pour des raisons diverses et ne devient pas tout de suite le sympathique compagnon que nous connaissons, mais le phénomène est en marche à partir de l'époque féodale et continue jusqu'à l'époque moderne, ce qui est d'ailleurs gênant parce que la symbolique du chien, elle est ambivalente comme toutes les symboliques animales, mais les mauvais aspects, pendant longtemps, sont plus nombreux que les bons. Et donc, cette revalorisation sociale du chien fait qu'il faut le débarrasser d'un certain nombre de ses vices supposés, et notamment le vice de luxure. Hein. Le chien, c'est un animal luxurieux, le chien et la chienne. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'entre le XIVe et le XVIIe siècle, en Europe, on déverse sur le cochon, qui n'y est pour rien, mais vraiment pour rien, ce vice de luxure qui était propre aux chiens. Hein, et le cochon se met à faire des cochonneries, si je puis dire, ce qu'il ne faisait pas pendant... il était sale, il était glouton, il était tout ce que vous voulez, mais il n'était pas sexuel. C'était le chien. Et donc ça, c'est un héritage médiéval qui est, de la fin du Moyen-Âge qui est tombé sur le porc, qui avait déjà un lourd bagage de vice. En voilà un supplémentaire. Et le chien se trouve quelque peu... anobli ou nettoyé de ce vice. Autre exemple, l'écureuil. Pour nous, l'écureuil, c'est un animal incroyablement sympathique, admirable, etc. Le Moyen-Âge a horreur de l'écureuil. C'est un animal abominable qui est paresseux, lubrique, avaricieux, stupide. Le singe de la forêt, disent plusieurs auteurs allemands. Il dort une partie de l'année, il ne fait rien. Il passe son temps à se lutiner avec ses congénères. Il est avaricieux et stockeur. Il cache plus de nourriture qu'il n'a besoin. Ça, c'est un immense péché au Moyen-Âge. Hein. C'est comme le meunier ou comme le boucher. Et puis, il est stupide parce qu'il n'arrive pas à retrouver les noisettes qu'il a cachées. C'est un animal épouvantable. Et puis, au début de l'époque moderne, l'écureuil a tendance à se revaloriser. Et quand on lit Buffon, par exemple, il y a 2-3 pages à la gloire de l'écureuil, où pour Buffon, mis à part le cheval, c'est le plus bel animal de la création, l'écureuil. Donc, entre le XIVe et le XVIIe siècle, il y a un changement du système de valeurs écureuil, qui est très, très intéressant. Quand j'étais jeune chercheur... La revue des caisses d'épargne m'avait demandé un article sur l'histoire et la symbolique de l'écureuil. Et j'ai raconté tout ça, que le Moyen-Âge le trouvait paresseux, lubrique, avaricieux et surtout stupide. Il ne retrouvait pas ce qu'il avait caché. Évidemment, je n'avais pas pensé que ça n'allait pas plaire à la revue des caisses d'épargne. Et mon article n'a jamais été publié. Donc, vous voyez... ne pas projeter nos savoirs d'aujourd'hui, nos sensibilités d'aujourd'hui, c'est vrai pour les animaux, c'est vrai pour toutes sortes d'autres domaines, mais même des choses qui pour nous sont évidentes doivent être maniées avec prudence. Alors, les procès faits aux animaux, évidemment, concernent au premier chef ces sujets qui ont occupé la petite histoire au XIXe et au début du XXe siècle et qui ont conduit naturellement à toutes sortes d'anachronismes et à se moquer de nos ancêtres qui conduisaient des taureaux, des chevaux et surtout des porcs au tribunal. En fait, c'est un magnifique sujet d'anthropologie historique que ces procès faits aux animaux qui n'existent pas de tout temps ni dans toute région, mais dont le Moyen-Âge n'a pas le monopole. On en trouve trace dans d'autres cultures, soit antiques, soit médiévales, soit modernes, notamment en terre d'islam. Au Moyen-Âge, dans le Moyen-Âge chrétien, ils apparaissent vers le milieu du XIIIe siècle, et on en trouve trace jusqu'en plein XVIIe siècle, même s'ils se font un peu plus rares. Ils sont de différentes sortes. Il y a au moins 2 grandes catégories. Il y a les procès qui sont intentés par la justice ecclésiastique, en général l'officialité. L'officiel de l'évêque, et qui consiste à juger des animaux pris collectivement, en groupe, qui ont commis crime ou délit, le plus souvent envahi un terroir et mangé les récoltes, hein, des rongeurs, des insectes, c'est un cas fréquent. On en devine quelques cas dans le courant du XIIe siècle, mais ça devient fréquent à partir de la seconde moitié du XIIIe siècle, et ça dure jusqu'à l'époque moderne. Donc là, c'est la justice ecclésiastique qui intervient, avec des décisions qui parfois nous font sourire. La vermine, comme on dit, est maudite. On jette l'anathème sur une troupe de sauterelles ou une troupe de mouches, ou bien parfois excommunié. Il y a quelques cas qui sont assez célèbres. Jusqu'à des dates avancées, par exemple autour de 1516-1518, dans le diocèse de Troyes, Les urubés, ce sont des sortes de hannetons. Les urubés ont envahi toute une région dans le département, le nord du département de l'Aube actuel et les confins de la Seine-et-Marne. L'évêque intervient. Il demande à ces urubés de quitter ces terroirs dans les 6 jours, faute de quoi ils seront excommuniés. Et comme ils ne sont pas partis, au bout de 6 jours, ils ont été excommuniés. On a gardé les documents. C'est l'époque où Luther prononce ses fameuses propositions, où Calvin n'est plus très loin et va se moquer de toutes ces pratiques. Mais ça implique une relation entre l'homme et l'animal assez différente de la nôtre. Un peu plus tôt, un dossier que je connais bien parce que j'ai dirigé une thèse sur ce sujet à Lausanne, m'enlève ma veste, pardonnez-moi. Les anguilles, à la fin du XVe siècle, sont trop nombreuses dans le lac Léman. Elles se reproduisent beaucoup trop et les autres poissons, les poissons blancs, sont gênés. Et les pêcheurs du lac Léman ne peuvent plus prendre de brochets, de gardons, de brèmes, de chevesnes, etc., etc. Et l'évêque de Lausanne, appuyé par celui de Genève, demande aux anguilles de moins se reproduire et leur donne 6 mois pour obéir. Et au bout de 6 mois, comme elles sont encore plus nombreuses qu'avant, elles sont excommuniées. Et par 3 fois, il y a excommunication des anguilles du lac Léman. Donc ça nous fait sourire, bien sûr, mais nous avons tort, parce que nous projetons des sensibilités d'aujourd'hui sur des documents du passé. Le deuxième groupe de procès, c'est celui sur lequel moi j'ai travaillé directement, ce sont des animaux individus qui sont conduits au tribunal pour crimes et délits, dégâts divers, accidents, homicides parfois. Et il y a tout un rituel judiciaire qui se met en marche et, dans certains cas, des documents nous sont parvenus. Une des grandes questions que je me pose, c'est est-ce que ces procès étaient fréquents ou rares ? Moi, j'ai travaillé sur la France uniquement. J'ai repéré 64 cas documentés entre le milieu du XIIIe siècle et les années 1600. Ça n'est pas tellement. Et souvent, d'ailleurs, ce sont des miettes de documents que nous avons et pas des dossiers complets, sauf exception. Le cas de la France, d'ailleurs, n'est pas isolé. Si on faisait une géographie de ces procès faits aux animaux individus, il y a des régions où ils sont plus fréquents que d'autres. Alors on ne sait pas si ça reflète la réalité ou si c'est le hasard de la transmission et conservation des documents. Mais pour la France, Normandie, Bourgogne, Lorraine sont des zones à procès d'animaux. Et à l'échelle de l'Europe, tout l'arc alpin, c'est une grande zone à procès fait aux animaux. D'ailleurs, la cartographie de ces procès s'emboîte assez bien à la cartographie de la sorcellerie qui n'est pas tellement médiéval, hein. La sorcellerie, il faut corriger une idée reçue, ça concerne surtout le début de l'époque moderne, les 16e et 17e siècles, y compris les pays y compris et surtout les pays protestants. Donc, ces procès faits aux animaux individus relèvent de la justice laïque, pas de la justice ecclésiastique, et c'est en général le fonctionnaire au service du roi ou du seigneur, le juge local, qui porte des noms très très divers. C'est assez difficile à étudier ces procès, d'une part parce que les archives judiciaires, qui sont les plus riches hein, partout en Europe pour le Moyen-Âge et l'Ancien Régime, sont constituées de labyrinthes, d'arcanes, d'une complexité absolument folle. Il faut bien bien connaître les institutions de justice pour commencer à travailler sur de tels documents. Mais souvent, nous n'avons donc, comme je l'ai dit, que des miettes. Et quand j'étais jeune chercheur, je pensais que nous avions beaucoup beaucoup perdu, que ces procès devaient être très fréquents, puis il ne reste que des miettes. Aujourd'hui, j'ai des vues un peu différentes. Je pense que ces affaires étaient quand même relativement rares, mais exemplaires, et c'est pour ça qu'on insistait et qu'on en gardait parfois trace. Donc je mets à part une troisième catégorie, mais qui est vraiment très très différente, les histoires de sorcellerie dans lesquelles des animaux peuvent être impliqués. Ça concerne surtout l'époque moderne et ce sont des dossiers très très différents, de même que ceux des affaires prétendues de bestialité, des relations sexuelles coupables entre hommes et animaux. Ça concerne très peu le Moyen-Âge et souvent ce sont des accusations mensongères et des règlements de compte entre voisins, entre parents, à l'échelle locale. Il y en a beaucoup en Lorraine. Donc, revenons aux animaux, aux gros animaux pris individuellement, qui sont presque toujours des animaux que nous appelons domestiques, les animaux de la ferme, des cochons, ce sont les vedettes de ces procès, j'y reviendrai, des bovins, des taureaux, des bœufs, des vaches, mais aussi des ânes, des chevaux, quelquefois des chiens. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Donc, le plus souvent, ils ont dévaster un jardin, manger ce qu'ils ne devaient pas manger, voler de la nourriture, refuser de travailler. Ça nous rappelle que les animaux travaillent au Moyen-Âge. Beaucoup d'animaux travaillent. Quelquefois, les archives ne disent pas précisément qu'est-ce qu'on reproche à l'animal. Par exemple, au début du XVe siècle, dans la région de Toulouse, un bœuf est décapité pour ses démérites. Il a démérité. On aimerait bien savoir. Probablement, il ne voulait pas tirer la charrue ou tirer le charroi. Les affaires les plus graves, ce sont celles où il y a mort d'enfant ou mort d'adulte, infanticide, homicide. Presque toujours, ça concerne des cochons qui ont occasionné des accidents, renversé des enfants et commencé à les dévorer s'ils étaient morts ou gravement blessés. Je vais y revenir. Pourquoi tant de porcs dans ces histoires de procès ? Le rituel judiciaire est un peu toujours le même et calqué sur les procès faits aux humains. Il y a arrestation de l'animal coupable, en tout cas on cherche à l'arrêter. Si on y parvient, on l'emprisonne. Il est nourri et gardé pendant son séjour en prison. Puis il y a un jugement, une sentence. On lui donne un défendeur. Parfois, il est habile et il arrive à faire acquitter l'animal, en général en expliquant que ce n'est pas lui, mais un congénère qu'on n'a pas réussi à attraper. Ou bien condamnation à mort et exécution publique avec, alors là, un rituel très lourd d'exposition, de traînée, puis de mise à mort par différents moyens, pendaison, décapitation, enfouissement, surtout pour les femelles. C'est d'ailleurs calqué sur la justice humaine. Les femmes sont très, très rarement pendues pour une raison qui va nous faire sourire, mais on verrait sous leur jupe. Donc, il faut les traiter autrement et on les enterre vivantes parfois. Donc, les femelles animales ont fait pareil. Écartèlement, parfois plusieurs de ces punitions, d'abord la pendaison, puis la décapitation. Il y a tout un rituel qui se met en marche et qui laisse parfois des traces dans les archives. Ce qui est fascinant, c'est que dans ces affaires, le propriétaire de l'animal n'est pas coupable. On ne lui reproche rien, si ce n'est d'avoir mal surveillé ses animaux. C'est très différent du droit d'aujourd'hui, où le propriétaire d'un animal se verra frappé d'amende, voire de peine de prison parfois. Là, pas du tout. C'est l'animal qui est coupable, ce qui implique des choses qui vont très loin sur la perception du bien et du mal par les animaux. Je vais y revenir. Avant de parler de l'affaire la mieux documentée, il faut signaler aussi que quand on n'est pas parvenu à attraper l'animal coupable, qu'on ne l'a pas retrouvé, qu'il s'est enfui sur une autre terre de juridiction, il y a un rituel qui peut se substituer au rituel ordinaire qui consiste soit à fabriquer un mannequin en forme de l'animal qu'on n'a pas pu capturer et de juger le mannequin et parfois de l'exécuter publiquement. Et alors là, ça peut être le propriétaire de l'animal coupable qui est quand même puni. Il doit fournir le mannequin. Il doit payer la réalisation du mannequin. Ou bien, je connais quelques cas où on prend un congénère. Si c'est un bœuf, le coupable, on va prendre un autre bœuf. Si c'est un cochon, un autre cochon, qui, le temps du procès, qui est théâtralisé, va jouer le rôle de l'animal coupable. Et il y aura la sentence prononcée. Et si c'est la mise à mort, il ne sera pas mis à mort, puisqu'il n'y est pour rien. C'est un acteur animal. Le Moyen Âge fonctionne souvent de cette façon-là. Hein. Au sacre du roi de France, par exemple, à partir d'une certaine date, il n'y a plus de comte de Toulouse ni plus de duc de Normandie. Et il y a pourtant deux personnages, jusqu'à l'époque de Charles X, qui jouent le rôle du comte de Toulouse et du duc de Normandie. Donc il y a une théâtralisation de la justice dans ce domaine-là qui va en s'accentuant au fil des décennies. Alors, je voudrais vous parler de l'affaire la mieux documentée sur laquelle j'ai eu la chance de travailler grâce à quelques complicités dans les archives diocésaines et dans les archives départementales. Elle concerne ma Normandie, pays d'où je suis originaire. C'est l'affaire de la truie de Falaise. Et les archives sont partagées entre celles du diocèse de C, dans l'Orne, et les archives départementales de l'Orne, même si Falaise aujourd'hui est dans le Calvados. Nous sommes au mois de janvier 1386, et le jour n'est pas précisé, mais une truie, âgée d'environ 3 ans, vêtue de vêtements d'homme, avec un masque humain sur la figure, est traînée sur une claie, par une jument, tout autour du château de Falaise, puis jusqu'au faubourg de Guibray, dans le sud de la ville, puis enfin jusqu'au champ de foire, où un échafaud a été dressé. Et là, une foule hétérogène assiste à l'exécution de cette truie. Un bourreau, dont nous connaissons le nom, dans un premier temps, mutile la truie à certains endroits, lui coupe le groin, lui entaille la cuisse, puis la pend par les jarrets et la laisse vider de son sang comme cela. Et une fois qu'elle est morte, elle est brûlée sur un foyer, qui est un bûcher qui a été préparé à l'avance. Et les restes de l'animal brûlé sur le bûcher sont dispersés aux quatre vents. Qu'est-ce qu'elle avait fait, cette truie, pour mériter un telle punition ? Et qui sont ces gens qui sont venus regarder l'événement, en quelque sorte, le spectacle du supplice de la truie ? Il y a les habitants de la ville, il y a le vicomte de Falaise, qui est le juge bailli royal, en fait, et tout son personnel. Et puis, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a des paysans habitants alentour, venus avec leurs cochons assister au spectacle de l'exécution de la truie. Et grâce aux documents, nous savons que cette truie, elle est infanticide. Elle a renversé le berceau d'un enfant qui n'était pas surveillé, qui s'appelait Jean Lemot. Il était à moitié assommé quand il est tombée, et elle a commencé à le dévorer à la jambe, à la cuisse et au visage. C'est pour ça qu'elle a été mutilée aux mêmes endroits. Cet enfant était âgé d'environ 3 ans. Son frère, un peu plus grand, jouait à côté. Son père était maçon. Son père maçon n'était pas là. Il était originaire de La Ferté-Macé, mais l'affaire, elle, se passe à Falaise. Nous ne savons pas à qui appartenait la truie, mais on sait qu'elle a reçu un avocat, que le procès a duré 9 jours, qu'on a payé un gardien pour surveiller la truie et la nourrir pendant ces 9 jours. Souvent, d'ailleurs, ce sont des archives comptables qui nous mettent sur la piste de telles affaires. On dépense de l'argent, donc ça fait des documents d'archives. On ne sait pas si la truie a subi la question, mais je connais un autre procès en Bourgogne, en 1457, c'est encore une truie qui a subi la torture pour avouer, et le greffier a noté qu'elle avait avoué avoir tué et à moitié dévoré un jeune enfant et il note « sinistre repas qu'elle a partagé avec ses six porcelets ». Donc la truie a avoué. Mais le plus extraordinaire dans l'histoire de la truie de Falaise, donc 1386, nous connaissons le nom du juge vicomte Renaud Rigaud, qui est en poste encore pour 2 ans. C'est lui qui a prononcé la sentence, c'est lui qui a présidé l'exécution et qui a eu des exigences un peu particulières. Et probablement lui qui a eu l'idée d'habiller la truie avec des vêtements de femme avant qu'elle soit exécutée. C'est lui qui a demandé que le spectacle ait lieu en présence des parents de l'enfant qui ne sont pas venus, et il leur a reproché de ne pas être venus, et du propriétaire cochon, dont nous ne savons pas le nom, à qui il a demandé d'accomplir un pèlerinage à Pontoise, à Saint-Martin de Pontoise, en mémoire de l'enfant qui était mort. C'est lui qui a demandé à ce que les paysans alentours viennent avec leurs cochons regarder l'exécution de la truie pour que le spectacle leur fasse enseignement, pour que ça leur serve de leçon. Donc on a l'idée qu'ils vont réaliser ce qui se passe et qu'ils vont faire des progrès dans le domaine civique et moral. Et surtout, pour nous historiens, il a demandé à ce qu'une peinture soit réalisée dans l'église de la Trinité de Falaise pour garder mémoire de l'événement. Ce qui a été fait, probablement dans les mois qui viennent, l'église de Falaise a subi plusieurs sièges, plusieurs destructions pendant la guerre de Cent Ans, mais la peinture a dû être restaurée à plusieurs reprises. Elle était sur le mur du croisillon sud du transept. Elle a été vue sous l'Ancien Régime. Des graveurs du XVIIIe siècle en ont laissé la trace. Elle semble avoir disparu vers 1820. On a badigeonné à la chaux. J'avais demandé à ce qu'on essaye de la retrouver, mais pour l'instant, on n'a rien retrouvé. Mais on a quand même le témoignage d'Ancien Régime de cette scène où on voit l'échafaud, le bûcher, le bailli à cheval, qui, une main comme ça qui regarde le spectacle, et puis une foule alentour mêlant des humains et des cochons. On connaît les sommes qu'on a dépensées pour garder la truie, pour la nourrir. Le bourreau qui a reçu 10 sous pour sa peine, 10 sous pour s'acheter une paire de gants neufs, ce dont il s'est dit bien content. C'est beaucoup, 10 sous pour acheter des gants. Voilà, donc là, on a la chance d'avoir un dossier presque complet. C'est exceptionnel hein, d'avoir tout cela. Dans d'autres cas, on n'a que des morceaux de ce que je viens de vous raconter. Alors, est-ce que ces procès faits aux animaux suscite interrogation. Est-ce qu'il y a des juristes ou des théologiens qui y sont hostiles et pourquoi tant de cochons conduits au tribunal? Il y a différentes raisons. Il y a d'abord la loi du nombre. Le cochon est très, très abondant dans l'Occident médiéval. Quelquefois, les archéozoologues le contestent parce que c'est une science nouvelle, j'aurais dû vous en parler. Depuis une quarantaine d'années, l'étude des restes osseux, dentaires, pileux qu'on trouve dans le sol fait progresser nos connaissances dans le domaine de l'histoire des animaux, notamment pour les périodes très anciennes. Les époques de domestication, au sens moderne de ce mot, peuvent être datées par l'étude des os qu'on trouve dans le sol. Hein, la castration des mâles, qui est une des pratiques de domestication, la castration des mâles entraîne une modification des formules osseuses et dentaires. Donc, quand on trouve des restes animaux dans le sol, on peut savoir si le mâle était castré ou pas castré, quel âge il avait au moment où il a été abattu, etc. Ça ouvre beaucoup, beaucoup de pistes. Et comme on trouve peu d'os de porc dans les chantiers de fouilles médiévaux, certains archéozoologues ont cru que finalement, il n'y avait peut-être pas autant de porcs qu'on croyait et beaucoup plus de moutons. Mais ils oublient que dans le cochon, tout est bon et qu'avec les os de porc, on fait 1000 choses au Moyen-Âge, et notamment de la colle, qui est presque, pas toujours, mais souvent, de la colle à base d'os de porc. Donc les cochons sont très nombreux et surtout ils sont vagabonds. Ils sont vagabonds à la campagne, ils sont vagabonds en ville où ils jouent le rôle des boeurs. Hein, ils vont continuer à le faire à l'époque moderne et encore à l'époque contemporaine. Hein, la divagation des porcs fait que les autorités municipales dans toute l'Europe de l'Ouest répètent sans cesse qu'il ne faut pas laisser les porcs vagabonder. À Naples encore au début du XXe siècle, il y a des arrêtés municipaux de cette nature. Donc, étant vagabonds et nombreux, bien sûr, ils vont dévaster un jardin, piller une boutique et surtout occasionner des accidents de toutes sortes. Hein. Le plus célèbre a eu lieu au XIIe siècle. En 1131, le fils aîné du roi Louis VI le Gros, Philippe, a été renversé de cheval au retour d'une partie de chasse dans une rue de Paris par un porcus diabolicus, disent les chroniqueurs, c'est-à-dire un cochon girovague, et il est mort à cause de cette chute, et c'est un événement inouï, parce qu'il avait déjà été sacré, couronné et sacré roi de France, du vivant de son père, c'était l'usage chez les premiers capétiens, et cette mort est ressentie comme une mort absolument infâme, hein. S'il était mort à la chasse, tué par un sanglier, ça, c'était héroïque, mais tué par un vulgaire cochon dans une rue de Paris, non, c'est épouvantable. Et c'est le cadet qui est devenu roi, c'est Louis VII, dont le règne est une véritable catastrophe pour la dynastie capétienne et change complètement même le cours de l'histoire de France. Donc ce cochon girovague, il a joué un rôle très, très important dans l'histoire de la France. Donc les cochons occasionnent beaucoup d'accidents parce qu'ils sont vagabonds, mais je crois qu'on les conduit aussi au tribunal plus que les autres animaux parce qu'ils sont pensés comme très proches des humains. Au Moyen-Âge, il y a trois animaux qui sont, par différentes sortes de documents, présentés comme cousins de l'homme. Il y a l'ours, en raison de son aspect extérieur. Un ours, ça ressemble à un humain, ça se tient debout, ça peut se tenir debout, ça prend des objets avec les mains, ça manie des outils, ça descend une échelle le dos dans le vide, aucun autre animal ne le fait. Ça saute, ça danse, ça nage, etc., etc. Il y a le cochon. En raison de son organisation interne, la médecine médiévale a l'idée que à l'intérieur du corps du porc, du verrat, de la truie, tout est pareil à ce que c'est dans le corps humain. Et comme l'Église interdit la dissection du corps humain jusqu'à des dates avancées, dans les écoles de médecine, l'anatomie du corps humain s'enseigne en disséquant la truie ou le verrat, avec l'idée que c'est tout pareil pour les principaux organes. Et la médecine contemporaine confirme qu'en effet, c'est tout pareil, absolument pareil. Non seulement les organes, mais le système digestif, le système urinaire, le système cutané. C'est pour ça que la médecine d'aujourd'hui emprunte tant et tant d'organes au porc et pas au singe. La proximité est considérable. Et je suis persuadé que les tabous qui entourent le porc dans certaines cultures viennent de ce cousinage biologique. Donc que la médecine antique, la médecine arabe, la médecine médiévale chrétienne connaissaient très bien. Et puis alors, quelques auteurs affirment qu'il y a un troisième animal qui ressemble à l'homme, c'est le singe. Mais ils précisent tout de suite que, en fait, le singe ne ressemble pas du tout à l'être humain, mais il est tellement diabolique qu'il fait semblant de lui ressembler. Et il faudra vraiment attendre le XVIIIe siècle pour qu'on ait l'idée d'un début de cousinage entre l'homme et le singe. Donc je crois qu'il y a, ce problème aussi de ressemblance qui explique pourquoi tant de porcs sont conduits au tribunal. C'est pas n'importe quel animal qui est la vedette de ces procès d'animaux. Statistiquement, 9 fois sur 10, c'est un cochon qui est conduit au tribunal. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui sont hostiles à ces procès faits aux animaux, chez les juristes, chez les théologiens? Il y en a, au Moyen-Âge même. Il y a d'abord un certain nombre de juristes, comme Philippe de Beauharnois, par exemple, au XIIIe siècle, qui pensent que c'est justice perdue, comme il dit. pense que les animaux ne peuvent pas comprendre ce qu'est le bien et le mal, et donc que les juger, c'est absurde. Ils ne comprendront pas ce qu'on leur reproche. Mais il y a des juristes, jusqu'en plein XVIe siècle, qui pensent le contraire, que les animaux peuvent avoir une idée de ce qu'est le bien et le mal, faire des progrès, et qu'il faut les punir. Et puis, il y a ceux qui ont une position intermédiaire, qui estiment que, oui, probablement, les animaux ne comprennent pas ce qu'on leur reproche, ce qu'est le bien et le mal, mais la justice doit être exemplaire, donc il faut que ces procès aient lieu pour la mise en scène de la bonne justice. Un jurisconsulte fameux, Pierre Hérault, a publié en 1610... en 1601, pardon, l'ordre formalité et instruction judiciaire, un best-seller de la littérature juridique d'Ancien Régime, maintes fois réimprimé jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Et dans le chapitre 25, consacré au procès fait aux bêtes brutes, il écrit « Si nous voyons un pourceau pendu et étranglé au gibet pour avoir mangé un enfant, punition qui nous est familière, c'est pour avertir les pères et mères, les nourrices, les domestiques de ne laisser leurs enfants tout seuls ou de si bien resserrer leurs animaux qu'ils ne leur puissent nuire ni faire mal. » Donc il a dit que peut-être ils ne comprenaient pas ce qui leur arrivait, mais pour l'exemple et pour en signe d'avertissement, il faut organiser de tels procès. Et puis les théologiens, eux, s'interrogent bien sûr sur l'âme des bêtes. Est-ce qu'il y a responsabilité ou non? Est-ce que certaines espèces animales sont plus que d'autres capables de comprendre ce qu'est le bien et le mal? On distingue des animaux supérieurs et d'autres qui ne le sont pas. On cherche dans la Bible, bien sûr, des exemples et on en trouve. On s'interroge, bref, sur les capacités de compréhension des animaux et sur l'âme des bêtes. Et les positions peuvent être assez tranchées. À la même époque, par exemple, saint Thomas d'Aquin pense que les animaux n'ont pas une âme intellective, siège d'une pensée, et notamment d'une pensée raisonnable. Mais Albert le Grand, autre dominicain, lui pense le contraire et pense que les animaux, non seulement ont une âme végétative et une âme sensitive, mais aussi une âme en partie intellective ou raisonnable. Il souligne que les animaux rêvent, que les animaux reconnaissent, il s'inspire un peu d'Aristote quand il dit ça, qu'ils sont capables de faire des progrès, du moins certains d'entre eux. Il dit même qu'ils sont capables de déduction. Pour comprendre, il est assez subtil, ils disent que les animaux comprennent la signification de certaines choses, mais pas le pourquoi de certaines choses. Et il a cette phrase extraordinaire, on dirait du Merleau-Ponty presque, pour les animaux, après avoir évoqué tout ça, il dit « mais pour les animaux, les signes restent toujours des signaux et ne deviennent jamais des symboles. » Il emploie en latin les signes restent des signa in corpore et ne deviennent jamais des signa in spiritu. C'est-à-dire que les facultés d'abstraction et le sens religieux leur sont interdits. C'est là où il veut en venir. Mais ils pensent donc qu'ils sont capables, pour certains, de comprendre ce qu'est le bien et le mal. Et ces débats vont durer pendant très longtemps. Ils vont durer jusqu'au XVIIe siècle, où là, ceux qui pensent que les animaux ne raisonnent pas, sont incapables de compréhension intellectuelle. C'est le courant dominant. Au XVIIe siècle, on en vient même à la fameuse théorie des animaux-machines. Descartes en est un des partisans, mais ce n'est pas le plus célèbre. Malebranche, par exemple, a écrit des choses terribles contre les animaux qui seraient de pures machines. D'autres pensent qu'ils sont nés hors du péché originel, donc ils ne connaissent pas la souffrance. Donc on peut leur faire tout ce qu'on veut, puisqu'ils ne souffrent pas. Et ça, c'est un courant qui se développe au XVIIe siècle. Au XVIIIe siècle, le balancier repart dans l'autre sens. Hein, c'est le début d'une nouvelle forme de sensibilité envers le monde animal. C'est l'époque, à partir des années 1760, des premières sociétés protectrices des animaux en Écosse, puis en Angleterre, puis sur le continent. Hein, donc c'est déjà une idée romantique, en quelque sorte, pré-romantique. Et puis, au XIXe siècle, arrive Darwin avec l'origine des espèces. Et là, le rapport entre l'homme et l'animal est complètement transformé par ces idées nouvelles. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ces procès faits aux animaux. Un sujet peu travaillé sur le plan scientifique. Les documents ne sont pas très abondants, mais ils existent. Mais ils nécessitent, de la part de l'historien, donc de se débarrasser de toute tentation d'anachronisme, de toute tentation pour projeter dans le passé des savoirs ou des sensibilités d'aujourd'hui. Merci.
Merci, Monsieur Pastoureau. Y a-t-il des questions ? Vous avez parlé de la souffrance. Justement, je voulais vous demander si, au Moyen-Âge, on pensait que l'animal souffrait. Vous avez...
Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Oui.
Enfin, qu'il y avait une douleur animale.
Le lexique latin de la souffrance, pour les humains comme pour les animaux, est assez développé, même beaucoup plus qu'aujourd'hui.
Maître, ce n'est pas en question, mais j'étais très touché à vous écouter. Par ces procès que vous intentez aux animaux, je l'ai trouvé imprégné d'une démocratie que je n'ai pas trouvée dans les prisonniers arabes qu'on a mis à Guantanamo.
Je n'ai pas bien compris votre question.
J'étais très touché du sens presque démocratique des procès intentés aux animaux. Ce que je n'ai pas trouvé à Guantanamo, aux prisonniers qu'on a mis en prison, les Arabes, les musulmans, on les a traités pire que les animaux.
Oui, ces procès impliquent dans les rapports entre l'homme et l'animal des relations différentes de celles que nous avons envers des animaux. Ça nous fait sourire, ces procès, ou ça a fait sourire nos prédécesseurs, mais en fait, ils ont quelque chose qui met en valeur la communauté des êtres vivants, hein, quelque chose que nous avons un peu perdu, même si des courants idéologiques d'aujourd'hui la remettent sur le devant de la scène. C'était beaucoup plus fort, beaucoup plus évident dans les sociétés du passé. On met peu en prison au Moyen-Âge. Hein. Pour les humains, comme pour les animaux, c'est toujours très limité dans le temps. Hein. La peine de prison relève d'une imagerie relativement romantique. Il y a toutes sortes de peines autres que l'emprisonnement. Il y a quelques cas célèbres, bien sûr, mais quand on visite les ruines d'un château fort et qu'on vous montre les prisons souterraines avec parfois des chaînes qui datent de la semaine dernière, là, ça donne une image un peu fausse, bien sûr, des peines appliquées au Moyen-Âge.
Est-ce qu'on peut dire que la création de l'âme dans l'Église, c'est uniquement pour se séparer des animaux ?
Non, non. L'âme, pour les savoirs antiques, médiévaux et modernes, se définit comme le souffle de vie, le souffle de la vie, hein, anima en latin. Donc, tous les êtres vivants ont une âme, les végétaux ont une âme, mais elle est à trois étages, l'âme. Et seuls les êtres supérieurs, les humains et quelques animaux, ont une âme donc intellective. Mais les plantes ont une âme végétative. L'âme se définit pas dans les sociétés anciennes comme l'image d'Épinal que nous avons, nous, aujourd'hui, de l'âme, en quelque sorte. Il est évident que les animaux ont une âme, mais quel type d'âme ? C'est cette question que les théologiens du Moyen-Âge se posent. Et quelle différence avec l'âme humaine ? Et le problème touche le troisième étage, l'âme raisonnable, l'âme intellective, siège de la pensée, et la pensée elle-même se divise en toutes sortes de sous-catégories. Est-ce que les animaux pensent, et quand ils pensent, est-ce qu'ils peuvent accéder à tel niveau ou non? Et la casuistique scolastique, alors là, s'en donne à cœur joie pour catégoriser et mettre des niveaux et des sous-niveaux.
Est-ce que la fable médiévale reprend un peu ces thèmes? Bon, il y a le roman de Renard, mais apparemment, il n'y a pas de jugement. Enfin, j'en sais rien. Et est-ce qu'on voit éventuellement des animaux juger d'autres animaux?
Mais le roman de Renard foisonne d'histoires. Vous êtes plus savant que moi, mais il y en a dans un très grand nombre de branches. Hein, et donc, il y a des procès qui caricature des procès véritables, il y a des animaux qui jugent d'autres animaux, mais c'est le problème de tout le bestiaire du roman de Renard, où les animaux sont à la fois des espèces animales, des types, des individus, et humanisés à un degré qui peut être très très avancé. C'est tout ça à la fois, c'est comme aussi les fables de La Fontaine, hein. Et le lecteur n'est absolument pas gêné, il entre là-dedans sans aucun problème. Mais le droit occupe une place considérable, hein, dans le roman de Renard. C'est les différentes branches constituent à la fois un roman de la fin, F.A.I.M., comme on l'a souvent dit, et puis un roman du droit et de la transgression du droit.
Oui, vous avez évoqué une disparition des procès d'animaux au XVIIe siècle. Est-ce qu'on a une idée à quoi peut-on attribuer cette extinction? Est-ce que c'est faute d'archives ou est-ce qu'il y a vraiment une extinction de ce type d'action judiciaire? Et pourquoi?
Je pense qu'un juriste répondrait mieux que moi, mais la justice change entre le milieu du XVIe siècle et le milieu du XVIIe siècle, hein, du point de vue général. C'est une autre justice qui se met en place où la part théologique se fait moins grande, en quelque sorte. Hein, ça va aboutir à l'habeas corpus à la fin du siècle. Donc je pense qu'il faut prendre le problème d'une manière plus large. En amont, en revanche, on peut constater que les procès faits aux animaux commencent à une époque où l'Église, dans le Moyen-Âge chrétien, au milieu du XIIIe siècle, se crispe beaucoup et se ferme. Et elle déclare la guerre à toutes sortes de catégories, aux non-chrétiens, aux hérétiques, à ceux qui exercent des professions illicites, il y a des exclus et des réprouvés de plus en plus nombreux. L'Église devient un immense tribunal, hein, à partir du XIIIe siècle. Et je crois que les animaux sont une catégorie parmi d'autres contre laquelle l'Église a tendance à se crisper. À partir du XVIe siècle, les controverses religieuses, les guerres de religion expliquent des attitudes un peu différentes et on entre dans une nouvelle période au XVIIe siècle. Je crois que c'est un problème général, en fait. La chasse aux sorciers qui commence à l'horizon des années 1330, la grande chasse aux sorciers, c'est un petit peu plus tard, mais c'est dans le même esprit. Hein. On voit le mal, on voit le diable partout. Ah, pardon, oui.
Puisqu'on a prêté des intentions aux animaux et qu'on les a punis, jugés, est-ce qu'on les a parfois récompensés, décorés?
Oui, bien sûr, oui, tout à fait. On les a bénis, on les a célébrés, on les a glorifiés. Des animaux archétypaux ou des animaux individus dont nous connaissons le nom propre qui lui a été donné et les exploits et les récompenses, les exploits qu'il a fait, les récompenses qu'il a reçues. Oui, il y a des cas fameux. Les textes littéraires nous portent témoignage de ces pratiques. Oui, pardon.
le Poitou-Charentes est une terre qui a été, qui est encore, je crois bien, une terre de sorcellerie et aussi de protestantisme. Est-ce qu'il y a eu des cas de procès d'animaux dans le Poitou ?
Oui, la géographie des procès, dans mes souvenirs, n'épargne pas le Poitou ni l'Anjou. Le Maine est encore plus riche et la Normandie plus encore. Mais la France de l'Ouest et du Centre-Ouest oui, a connu un certain nombre de procès. Comme ça, de mémoire, je me souviens qu'à Montmorillon, au XVe siècle, il y a une affaire de cheval qui s'est enfui. Oui, c'est ça, ou plutôt le propriétaire du cheval qui avait renversé quelqu'un et causé mort d'homme, le propriétaire du cheval l'a entraîné sur un tiroir dépendant d'une autre juridiction. Et on a quand même retrouvé ce propriétaire et il avait caché son cheval et on lui a demandé donc de fournir un mannequin de cheval. C'est un de ces cas assez connus. On est vers 1450-56, je crois.
Il y avait les animaux à quatre pattes, mais comment étaient considérés les oiseaux, vous qui aimez beaucoup certains oiseaux, d'après ce que... Comment étaient considérés les oiseaux au Moyen-Âge ?
Les hommes du Moyen-Âge connaissent mieux les oiseaux que les quadrupèdes ou surtout que les poissons. Et donc, ils sont très admiratifs des oiseaux parce qu'ils volent et ils sont près du monde des cieux. Donc, l'oiseau est souvent meilleur que le quadrupède et qui lui-même est meilleur que les animaux aquatiques qui vivent dans un monde un peu mystérieux et inquiétant. Cela dit, il y a oiseaux et oiseaux. Moi, je suis un spécialiste du corbeau et l'histoire du corbeau dans les sociétés européennes, c'est l'histoire d'une incroyable dévalorisation. Les sociétés antiques, aussi bien gréco-romaines que germano-scandinaves, ont une admiration immodérée pour les corbeaux qui sont divinisés. Puis le Moyen-Âge chrétien, la Bible d'abord, le Moyen-Âge chrétien ensuite part en guerre contre le corbeau, oiseau noir, oiseau qui ne revient pas quand Noé l'a lâché pour voir si les eaux du déluge s'étaient retirées. Bref, il y a une dévalorisation immense du corbeau qui s'accentue encore à l'époque moderne, mais il prend sa revanche, le corbeau, puisque aujourd'hui, toutes les expériences sur l'intelligence animale montrent que le plus intelligent de tous les animaux, c'est le corbeau. Il est au niveau des grands singes. Au niveau des grands singes.
Je posais cette question parce que j'ai vu une affiche sur les marchands de journaux que la ville de Poitiers chassait les corbeaux. Alors, est-ce que quelqu'un dans la salle a une explication ? Je n'ai pas lu l'article, donc j'ai pensé à Michel Pastoureau, qui adore les corbeaux. Donc est-ce que quelqu'un a lu cet article ? Pourquoi on chasse les corbeaux à Poitiers ? Attendez, je vais vous passer le micro.
Il est classé nuisible, il pille les récoltes, surtout il terrorise les autres oiseaux.
En réalité, c'est les corneilles que l'on chasse. Ah, parce qu'ils ont interprété, mais je pense que ce sont les corneilles et c'est parce que les gens se plaignent du bruit que ça fait lorsque ça niche.
Ils sont bruyants, oui, les corbeaux. Je ne suis pas un amoureux des corbeaux, mais...
On va faire un procès aux corneilles.
Pour l'historien, c'est un des animaux vedettes des documents. Hein. Textes et images sont très bavards sur les corbeaux de la mythologie gréco-romaine jusqu'à aujourd'hui. Les histoires de corbeaux, ça foisonne. Et les corbeaux... on dit les corbeaux, mais en fait, derrière, il y a des catégories assez variées. Il y a le grand corbeau, qui est un animal, en effet, qui fait peur. Hein. C'est énorme et c'est absolument tout noir. Mais il y a les corbeaux freux, qui sont plus petits, qui sont moins charognards et qui se nourrissent surtout de fruits. Il y a les corneilles, autre animal très intelligent. Hein. Pour l'imaginaire, pour la littérature... la corneille, c'est la femelle du corbeau. L'idée qu'il y a des corbeaux femelles et des corneilles mâles, c'est extravagant pour l'imaginaire, pour l'histoire naturelle, oui. Hein, ça ne s'emboîte pas du tout. L'histoire naturelle, c'est souvent une forme d'histoire culturelle d'un type particulier.
On a vu un documentaire, monsieur Pastoureau.
Attendez, monsieur.
Excusez. Dernièrement, on a vu, je ne me souviens plus que ce qu'a dit à la télévision, un documentaire sur le corbeau, et c'était vraiment étonnant. Il construisait ses outils pour récupérer des bouts de viande cachés dans une cage fermée. Il décrochait une petite branche, qu'elle avait un petit bec, la branche, c'est-à-dire une double branche. Il prenait la tige plus longue, il laissait un petit bout de l'autre, et il faisait harpion pour récupérer. C'était vraiment très étonnant.
Oui, moi j'ai vu des images de corbeaux ouvrant une porte fermée à clé en allant chercher à plusieurs un bout de fil de fer, essayant, puis le travaillant jusqu'à ce qu'ils arrivent à crocheter la porte. Mais surtout, le plus étonnant, c'est la façon dont les corbeaux se moquent des autres oiseaux, leur jouent des tours, se cachent pour les observer, et ils ont l'impression qu'ils rient entre eux pour se moquer des autres. Ils imitent la voix très bien des autres oiseaux. Ils sont assez étonnants. Aujourd'hui, les zoologues sont à peu près tous d'accord pour souligner l'intelligence de cet oiseau. Quand on lit l'histoire naturelle de Pline, il dit déjà la même chose. Hein. Au premier siècle de notre ère, il est bavard sur le corbeau et il raconte ce que font les corbeaux à son époque. Il souligne cette intelligence de l'oiseau.
Oui, je voudrais savoir si vous pouvez nous expliquer pourquoi le diable est parfois représenté justement sous les formes, sous l'image du bouc, le lien entre les deux.
Oui, c'est plutôt la fin du Moyen-Âge et surtout l'époque moderne, hein, où le diable, au sabbat, surtout au sabbat, prend l'aspect d'un bouc. Il peut prendre n'importe quel aspect animal, mais surtout le bouc, c'est parce que le diable, qui est tout à fait polymorphe et son iconographie part dans tous les sens, mais le diable en tant qu'animal reflète une certaine idée sexuelle. Et alors, un des animaux les plus sexuels du bestiaire médiéval et moderne, c'est le bouc qui manifeste extérieurement sa sexualité exacerbée et qui est un animal, dans les systèmes de valeurs médiévaux, qui est rarement pris en bonne part. Hein. Autant on admire le bélier, autant on méprise le bouc. Ça, c'est un héritage biblique. Hein. Le Christ qui met les brebis à sa gauche et les boucs... Non, les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Donc, ça suffit à classer ces deux espèces animales. Et puis, on a observé depuis très longtemps que les béliers couvrent les chèvres, alors que le bouc ne couvre pas les brebis. Donc le bélier est supérieur au bouc. Hein, et le bouc est un animal qui fait partie du bestiaire du diable. Mais pendant longtemps, il n'est qu'un parmi d'autres. Et puis, à la fin du Moyen-Âge, il devient une des vedettes. Il y a aussi l'odeur du bouc, il y a sa pilosité. Hein, il y a le regard culturel porté par les sociétés européennes sur la pilosité. C'est une histoire très, très intéressante. Et l'histoire d'une dévalorisation jusqu'à aujourd'hui.
Est-ce que vous pouvez nous préciser la valeur de l'excommunication
oui,
contre les animaux
Qu'appelez-vous la valeur?
Quelle valeur ont donné à cette...
L'historien en fait le théologien, une lecture très intéressante. Les animaux font partie de la société chrétienne. La bulle d'excommunication les fait sortir de cette société. Ils n'en font plus partie. C'est un privilège qui leur est donc retiré, refusé. Et c'est particulièrement infamant quand un roi pour... déboires matrimoniaux en général est excommunié, mais ça peut prendre aussi des raisons politiques. C'est terrible hein, d'être mis au banc de la société chrétienne. Et donc, ces simples bulles d'excommunication, dans un cas fin 15e siècle, dans l'autre début 16e siècle, dont j'ai parlé en commençant, laisse penser qu'il va de soi que les animaux font partie, enfin certains animaux en tout cas, font partie de la société chrétienne. Et parmi les reproches faits par les grands réformateurs protestants à l'Église, dans toute une liste interminable, il y a des mentions parfois de ces comportements envers les animaux, envers les reliques animales. Calvin nous raconte qu'à Vérone, on honorait donc encore dans les années 1530-40, on honorait, on vénérait les reliques de l'abbesse de l'entrée à Jérusalem. Il y a toute une légende, le Christ, était le jour des rameaux, est entré à Jérusalem monté sur une ânesse précédée de son ânon. Cette ânesse aurait assisté à la crucifixion et absolument dégoûtée, elle aurait quitté la Terre Sainte sur un navire grec. Elle serait allée jusqu'en Italie, jusqu'à Vérone, et là elle serait morte et ses ossements ont été transformés en reliques. Et donc au début du XVIe siècle, on vénérait encore ses ossements. On racontait que cette ânesse, c'était la fille ou la petite fille de l'ânesse de la fuite en Égypte, qui elle-même était la descendante de l'ânesse de Balaam, etc. Donc on écrit énormément sur les animaux au Moyen-Âge et c'est sidérant du point de vue historiographique que pendant des générations et des générations, des historiens ont considéré que cela relevait de la petite histoire et des curiosas. Non, au contraire, ça relève de la grande histoire et de l'anthropologie historique.
Vous avez évoqué phénix, licorne, griffon, en disant que c'était des animaux qui avaient une réalité. Quelle est-elle ?
Elle est d'abord lexicale. Ils ont un nom et un nom stable. Et ça permet de donner une réalité à ces espèces animales, alors qu'il y en a d'autres qui sont, on appellerait cela des monstres, nous, qui sont composites, qui empruntent telle partie du corps à telle espèce animale et telle autre partie à telle autre espèce, ou bien mi-humains, mi-animaux, et n'ont pas de nom. Alors là, les hommes et les femmes du Moyen-Âge se demandent si ces espèces existent vraiment. Mais ceux qui ont un nom et une typologie formelle relativement stable, c'est donc qu'ils existent vraiment. Et même si les détails varient pour les dragons, pour la licorne, iconographiquement, typologie assez variée, dans l'imaginaire des hommes et des femmes du Moyen-Âge, ce sont de vraies espèces. Et il viendrait à personne avant le XVe siècle de mettre leur existence en doute. Après, on commence. Hein, et au XVIe siècle, il y a beaucoup de questions sur la licorne qui se posent, par exemple. Mais Marco Polo en a vu. Il affirme absolument qu'il en a vu.
Est-ce qu'il existe des animaux pèlerins ?
Des animaux ?
Pèlerins, pérégrini.
Ben là encore, dans le roman de Renard, il y a tout ce qu'il faut, y compris renard pèlerin. Pèlerin d'un type un peu particulier, mauvais pèlerin, mais les vrais pèlerins aussi, les pèlerins humains plutôt, sont aussi des mauvais pèlerins. Il y a des villes qui ferment leurs portes quand elles voient arriver des troupes de pèlerins, parce que c'est toujours dangereux, une troupe de pèlerins, ou pire encore, de croisés. On en a beaucoup peur. Donc, il y a des animaux qui accompagnent sur le chemin de pèlerinage des groupes d'hommes et de femmes ou un propriétaire, commencé par les chevaux ou les bœufs qui tirent les chars. Oui, il y a un problème assez voisin, c'est celui de la présence des animaux vivants dans les églises. Est-ce qu'ils ont le droit ou non d'entrer dans les églises ? Et à l'époque féodale, il y a un débat lorsque tel seigneur souhaite entrer à cheval dans l'église, avec le faucon sur le poing, avec ses chiens, etc. Certains évêques ne sont pas contre et d'autres y sont hostiles ou sont casuistes. Et je connais un cas qui concerne l'évêché de Laon. L'évêque de Laon, on est vers 1120-1125, l'évêque de Laon dit oui pour les faucons, oui pour les chiens, non pour les chevaux. Mais c'est peut-être simplement un problème de volume. En revanche, la bénédiction des animaux, ça c'est chose extrêmement fréquente hors de l'église, ou sous le porche de l'église, dans le narthex, ou même dans la nef, mais pas dans le chœur. Il faut se rappeler que l'église médiévale, c'est un espace extrêmement sectorisé et compartimenté. On ne fait pas n'importe quoi à tel ou tel endroit. Il y a des parcours, il y a des zones où on lit, où on chante ceci et pas cela, etc. L'iconographie peinte et sculptée doit s'étudier à partir de ce qui se fait dans l'église. Oui.
Oui. Vous avez parlé d'Aristote. Moi, je pense pas que ce soit une question. Aristote a bâti sa pensée par rapport à un monsieur qui s'appelle Parménide. Parménide disait que tout ce qui existe finalement, tout ce qui est dans la pensée existe. La pensée et l'être font une seule chose. Et Aristote, pour infirmer cette idée, il a inventé un animal mythique, même pas mythique, mais qui n'existe pas, mais dont le nom existe, qui s'appelle le bouc cerf. Et le bouc cerf permet de dire que tout ce qui a une définition normalement peut ne pas exister. Ça permet de dire tout ce qui existe a un sens, mais peut y avoir du sens sans référence dans le bouc cerf. Et ça permet de dire qu'il y a une limite entre l'être et le non-être. Donc ce qui permet de penser, ce que permet l'imagination, c'est un animal d'Aristote qui s'appelle le bouc cerf. On a bien commenté cette idée durant tout le Moyen-Âge. Et finalement, on a bâti jusqu'au notre roman moderne. C'est quelque chose qui a un sens très fort, mais qui n'a pas de référence. Et c'est à partir d'un animal qu'Aristote a bâti sa pensée et par rapport à cette idée de par rapport à cette opposition à Parménide. J'ai une question de mon ami qui n'a pas voulu la poser lui-même. C'est que, je vous la lis, est-ce qu'il y avait insuffisance d'animaux réels chez les Grecs pour inventer, par exemple, le centaure, méduse, licorne, etc. Voilà, merci.
Non, ce n'est pas qu'il y a insuffisance, ni même qu'on ne sait pas observer. Hein. Au Moyen-Âge, on sait très bien observer la nature, mais on n'a pas idée que l'observation conduit à la vérité des êtres et des choses. Hein. Le vrai, ce n'est pas le réel, ce n'est pas l'exact, ce n'est pas le juste. Hein. Le vrai, c'est de l'ordre métaphysique. La réalité, ça n'a pas grand-chose à voir avec la vérité. Hein. Nous, on confond tout ça, le vrai, le réel. Non, quand on est historien du Moyen-Âge, il faut être très, très attentif au vocabulaire, surtout au vocabulaire latin, et on s'aperçoit que il n'y a pas synonymie. C'est surtout des confusions lexicales, des confusions de discours, des confusions d'images qui créent des êtres hybrides, composites et qui deviennent des êtres imaginaires. Mais pour rebondir sur ce que vous avez dit à propos d'Aristote et cet animal qui n'existe pas, oui, c'est très important, surtout quand on est chercheur en sciences humaines, il ne faut absolument pas opposer l'imaginaire et la réalité. L'imaginaire, c'est une réalité, ça existe, hein. On ne peut pas le nier, ça existe, l'imagination, le rêve, et pensons à un sociologue, par exemple, qui étudierait une société donnée dans tous ses aspects, puis qui n'étudierait pas son imaginaire, il mutilerait complètement la réalité de cette société. Hein. Donc l'imaginaire, c'est une réalité parmi d'autres, ce n'est pas du tout le contraire de la réalité, et votre exemple est, de ce point de vue-là, tout à fait pertinent. Et pour le Moyen-Âge, les documents nous confrontent constamment à ce problème et nous sommes totalement anachroniques si nous pensons que l'imaginaire se relève de fantasmes qui sont irréels, surréels, qui n'existent pas. Non, pas du tout. L'imaginaire, ça existe et ça doit s'étudier comme tel.
J'aurais une question plus terre à terre. Monsieur Pastoureau, on a organisé une journée d'études sur les animaux, donc vous avez contribué à cette thématique sur à chacun son animal. Et il y a votre conférence aujourd'hui. Et après-demain, on va organiser une journée d'études sur l'homme, l'animal et la science, et en particulier sur un sujet assez difficile, à savoir l'expérimentation animale. Je voulais savoir quelle était votre position d'homme moderne et de position personnelle aussi vis-à-vis de la façon dont on traite les animaux aujourd'hui, que ce soit l'animal de consommation, l'animal domestiqué, ou l'animal expérience. Cet animal, c'est un tout. Et là, on est en train de le couper en morceaux, si je puis dire, pour notre bien-être. Donc, qu'en pensez-vous ? C'est une question un petit peu facile, mais j'ai besoin de votre opinion. Voilà.
Oui, bon, je suis un homme très ordinaire, hein, à côté de mon discours d'historien ou de chercheur en sciences humaines. Je suis aussi un homme de tous les jours extrêmement banal, donc je n'ai aucun scrupule à manger tel ou tel animal et même à être réjoui de tel ou tel plat. Malgré toute la sympathie que j'ai pour telle ou telle espèce animale, j'arrive à distinguer les deux choses. Ce que je pourrais dire, d'un point de vue général, dans l'attitude de l'homme vis-à-vis de la nature, disons, c'est que pendant des siècles, pendant des millénaires, l'homme a subi la nature. Peut-être qu'il est un peu temps qu'il prenne sa revanche. Mais évidemment, si c'est dangereux pour lui, il faut s'en inquiéter. Et puis, d'un point de vue tout à fait personnel, je ne suis pas tout à fait convaincu que l'homme soit absolument maître de son destin, donc je regarde ça avec une certaine distance.
Merci de votre réponse. Alors moi, je vous remercie tous, et en particulier nos auditeurs, et en particulier notre conférencier invité qui reviendra. Si vous voulez faire dédicacer des ouvrages, vous pouvez encore le faire jusqu'à encore 5 à 10 minutes, et je vous invite vraiment à lire le dernier ouvrage de M. Pastoureau, qui a eu le prix Médicis, de l'essai Les couleurs de nos souvenirs. Merci à tous, bonsoir.